Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolo Orsi.
À seulement 19 ans, les amis, Andrea Kimi Antonelli s'offre sa première victoire en Formule 1. C'est le 116e vainqueur en Grand Prix de l'histoire et le deuxième plus jeune pilote à s'imposer. Salut à tous, on va débriefer dans le paddock RMC ce Grand Prix de Chine, la deuxième manche de la saison, avec un nouveau doublé des Mercedes, une bagarre terrible en piste au sein de la Scuderia Ferrari entre Hamilton et Leclerc, avec c'est officiel, hein, Lewis Hamilton qu'on a enfin retrouvé. Les cadors de 2025, eux, sont complètement perdus. Et puis Alpine qui se montre enfin aux avant-postes grâce à un très bon Pierre Gasly à nouveau. Voilà le programme de ce podcast. Je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous vous abonnez au paddock RMC, vous recevez toutes les notifications. Et puis vous allez checker la page Instagram RMC Formule 1, on vous en parle à chaque fois désormais, mais vous avez du contenu qui tombe tous les jours sur cette page Instagram. Notre team principal est là, Jean-Luc Roy from Miami. Salut mon Jean-Luc.
Oui, salut mon Nico et bonjour à tous.
Tes ingénieurs à tes côtés pour ce débrief, Louis Gerbier et Seb Herson. Salut les amis.
Salut Nico, salut tout le monde.
Salut Louis, salut
tout
le monde. Salut Seb.
Vous savez ce qu'on va faire, je ne vais même pas vous demander ce que vous avez pensé de ce Grand Prix de Chine. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et revenir sur la victoire d'Antonelli. Et si on a pris du plaisir sur cette deuxième manche, si on se faisait pas un petit peu à cette nouvelle réglementation au final? Je vais vous poser la question, c'est parti les gars. Comme d'habitude, on va se donner les résultats de ce week-end avec, on le disait, un doublé Mercedes, Kimi Antonelli, donc première victoire en Formule 1 à 19 ans qui devant son coéquipier George Russell, c'est Lewis Hamilton, 18 mois après son dernier podium, qui monte sur la troisième place de ce Grand Prix de Chine, juste devant son coéquipier Charles Leclerc, avec un duel en piste entre les deux, sur lequel on va revenir bien évidemment. Superbe début de saison d'Oliver Berman, 5e avec sa As. Pierre Gasly, 6e, prend 8 points sur cette course du Grand Prix de Chine. Liam Lawson, 7e. Isaac Hadjar, 1er point avec Red Bull, 8e. Carlos Sainz, 9e. Franco Colapinto, 2 Alpine dans les points à la 10e position. Vous n'avez pas entendu prononcer les noms de Lando Norris, d'Oscar Piastri, de Max Verstappen. C'est normal, ils n'ont pas terminé la course. Les deux McLaren n'ont même pas pris le départ. On va revenir quand même sur ces cadors de 2020 qui sont complètement à la ramasse. Il n'y a que 15 voitures sur 22 qui ont bouclé la ligne d'arrivée, franchi la ligne d'arrivée plutôt de ce Grand Prix de Chine. Tiens, je vous donne très rapidement le podium de la course sprint parce que c'était un week-end sprint. C'est Russell qui s'est imposé devant Leclerc et Hamilton, avec là pour le coup des McLaren dans les points, Norris 4e et Piastri 6e. Au championnat, les Mercedes sont en train de s'envoler. George Russell 51 points, Antonelli 47 points, Leclerc 34 et Hamilton 33. Et au classement des constructeurs, un Mercedes qui a déjà 31 points d'avance sur Ferrari. McLaren est la troisième force vive du plateau. C'est Haas qui est quatrième de ce championnat du monde constructeur. Voilà, on a donné toutes les infos après ce Grand Prix de Chine. Jean-Luc, on va revenir un petit peu sur... D'ailleurs, je vous rappelle quand même, je vais teaser un petit peu mon Jean-Luc sur ta nouvelle chronique dans cette saison 2026 du paddock RMC, où je crois que tu as un petit coup de gueule à passer. Mais avant, je voulais qu'on reste focalisé quand même sur le sportif avec cette victoire d'Antonelli. Dans un week-end qui a été spécial, nous aussi, on continue à s'habituer à cette nouvelle réglementation. Mais c'est encore une fois une Mercedes qui est plus rapide que tout le monde, Jean-Luc.
Absolument, mon Nico. Écoute, on s'y attendait, c'est très clair, vu la domination qu'elles avaient exercée sur le Grand Prix précédent. On voyait mal comment on pouvait inverser la tendance, même si, on l'avait dit, le profil du circuit était totalement différent et pouvait un petit peu redistribuer les cartes. En partie, oui, puisqu'il semble que l'écart, dans certaines circonstances, soit réduit entre les flèches d'argent, on va les appeler comme ça, et leurs poursuivantes immédiates, c'est-à-dire les Ferrari, qui ont encore un petit peu brillé en début de course, mais tout ça, et on le sait bien, malheureusement un petit peu artificiel. Au final, on termine quand même très très loin, à plus de 25 secondes, ce qui est énorme. C'est plus qu'en Australie où on était de mémoire à 15 secondes. Donc, ça veut dire que la domination exercée par les pilotes Mercedes est totale. Et là, bah, je suis, oui, c'est un beau coup de cœur pour Kimi Antonelli. Il est réjouissant, ce gamin. Ses larmes étaient émouvantes hein, lorsqu'il s'exprimait juste après l'arrivée. Son papa qui était là. C'est une très belle histoire. C'est fantastique. On ne peut que se réjouir de ça. Bon, il a profité, bien sûr, en partie des problèmes de Russell en qualif qui l'ont empêché de donner tout ce qu'il avait. Russell qui termine qu'à deux petits dixièmes. Et puis après, il a été un petit peu empêtré dans les Ferrari. Donc, bon, mais une course impeccable. La seule toute petite faute, vous l'avez vu comme moi, c'est qu'à un moment, il bloque une roue sur la fin. Peut-être il se déconcentre un tout petit poil à 4-5 tours de l'arrivée. Mais heureusement, il se récupère. Et comme l'a dit Bono, son ingénieur, il dit « Tu me ramènes tout ça à la maison et ça va être bon. » Et donc, c'est un fabuleux podium. Écoute, c'est super, mais ça va être une bataille, on va dire jusqu'au mois de juin, entre les deux pilotes de Mercedes. Voilà.
Ouais, c'est ce qui est en train un petit peu de nous pendronner, Louis. Cette bataille jusqu'à, on ne sait pas combien de temps, dans 6 mois, dans 7 mois, entre les deux pilotes Mercedes, franchement, on voit qu'elles sont largement au-dessus, ces voitures-là, même s'il y a des bagarres avec les Ferrari en piste, mais les Ferrari ne peuvent pas tenir la distance pour le moment, et elles sont bien supérieures, tout simplement, ces Mercedes.
Bah, on est parti à minima jusqu'en juin déjà, avant qu'il y ait des petits changements, mais peut-être même pour plus longtemps. On voit bien l'hégémonie qui est en train de se dessiner, parce que Ferrari, en fait, ils font pas vraiment le poids. Ils donnent tout sur quelques tours. Ils essayent vraiment à fond de tout mieux gérer. Alors, ils se sont rapprochés, c'est moins la cata que Melbourne. Mais tu sens clairement un step. J'attends de voir aussi comment va évoluer McLaren qui a le même moteur, parce que pour l'instant, ils n'y arrivent pas. On voit que Mercedes n'a pas qu'un moteur, puisque justement, tous leurs clients sont loin derrière. Donc, c'est que la voiture est... Enfin, le moteur est fait pour la voiture pour le moteur. Tout a l'air d'être très bien né. Les pilotes ont une des meilleures voitures, donc se plaignent pas trop des nouvelles réglementations, voire les défendent. C'est assez normal. Donc, Toto a retrouvé une jeunesse. Il a perdu 10 ans, lui qui avait pris 10 ans sur la dernière réglementation. soleil au beau fixe du côté de McLaren. Et c'est vrai que, comme tu dis, Nico...
De Mercedes, excuse-moi.
Mais comme tu dis, Nico, on ne voit pas tout de suite de changement à ce niveau-là. Quoi. Peut-être un rapproché ouais. Ferrari, mais au mieux. Quoi.
Seb, la perf d'Antonelli. Alors, c'est vrai que dans tous les podcasts d'avant-saison qu'on a pu faire, on le voyait gagner des courses, hein, Antonelli. Peut-être pas aussi rapidement. Ça prouve quand même un petit peu le pilote que c'est. Alors c'est difficile toujours de placer les pilotes dans l'histoire, surtout en plus sur un début de réglementation, mais malgré tout, deuxième pilote le plus jeune à s'imposer dans l'histoire de la Formule 1. Il y a cette radio là, Toto Wolff, qui lui fait passer le message en disant il y a un an personne croyait en toi, et là tu te retrouves à gagner une course. Tu sens que cette relation entre Toto Wolff et Antonelli, elle est super spéciale aussi. C'est un crack, c'est un futur vrai crack qu'Andrea Kimi Antonelli, où là c'est juste que les voitures sont tellement au-dessus que forcément il allait finir par en taper une.
Futur vrai crack, ça je sais pas, mais en tout cas moi je suis très content. La semaine dernière je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit Antonelli, ça va être le petit caillou dans la chaussure de Russell, parce que moi je le trouve bon, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup défendu l'année dernière, et j'ai même fait un pari avec les équipes Canal en tout début d'année en disant Antonelli, j'y crois. Moi, je suis sûr qu'il va performer parce que déjà l'année dernière, en fin de saison, il se rapprochait, voire il était devant George Russell sur le dernier tiers de la saison. Et là, il revient. Alors oui, comme le dit Jean-Luc, il a été aidé par le fait que George Russell, en qualification, n'ait pu avoir qu'un seul tour. Forcément, ça l'aide. Mais après, en termes de rythme de course, quand Russell était deuxième, il n'est pas remonté derrière Antonelli. Alors oui, ses pneus pouvaient être plus abîmés parce qu'il a eu une bataille contre les Ferrari, Russell. Mais moi, je suis très content. Et crack, je ne sais pas, parce qu'il est quand même jeune, mais c'est magnifique de voir ça. Magnifique de se dire, bravo Toto Wolff d'avoir eu le courage de le mettre dans la voiture. Souvenez-vous, l'année dernière, il me semble que c'est à Spa, Antonelli qui est à moitié en pleurs en disant « c'est compliqué, mentalement c'est chaud ». Les gens qui le critiquaient sur les réseaux sociaux, il était au bord des larmes. Il a été aidé par Peter Bonington, son ingénieur, par Toto Wolff, par tout son staff, par toute son écurie. Et il est revenu, et moi je trouve que c'est génial, c'est une belle symbolique. Et ces images de le voir en pleurs à la fin de la course, je trouve que c'est magnifique et ça me fait plaisir. Je ne sais pas s'il va réussir à tenir sur toute la saison un George Russell. Mais c'est sûr qu'il va l'embêter. Regardez George Russell sur le podium. Oui, il est content parce qu'il s'entend bien avec Hamilton, il s'entend bien avec tout le monde. Mais tu le sens qu'il se dit, je pense que là, il a dû réaliser, ok, face à moi, j'ai un petit, certes, mais c'est pas n'importe qui. Et ça, ça va être intéressant.
Ouais, c'est clair. Il y a ce podium en plus qui est très sympa.
Il est magnifique.
Peter Bonington, Antonelli, Russell et Hamilton. Toto Wolff d'ailleurs a dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi ému après un podium en Formule 1. Tiens, on va l'écouter, Kimi Antonelli, au micro du diffuseur Canal+, après sa première victoire en F1.
You know, I'm speechless. I'm very grateful as well.
Moi, j'ai pas les mots. Et je suis aussi très reconnaissant. L'équipe nous donne une voiture incroyable cette année. Ils nous permettent de nous battre pour la victoire sur toutes les courses. Tous ceux qui bossent à l'usine, ils ont fait vraiment un boulot incroyable. Ils ont fabriqué une voiture fantastique. Et aujourd'hui, ils m'ont aidé à atteindre l'un de mes rêves. Il en reste un plus gros de rêve. Que j'espère pouvoir atteindre. Mais c'est que le début, il reste du chemin et aujourd'hui, c'est une journée vraiment magnifique. Il a de l'ambition, Jean-Luc Antonelli, et on se dit, alors là, je fais un peu de la Formule 1 fiction, donc on ne sait pas parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va évoluer là, dans les semaines à venir. On ne sait pas si la FIA va faire un petit changement de règlement qui peut impacter les performances des monoplaces. Mais malgré tout, si c'est une bataille à deux, il a peut-être... une des plus belles opportunités de sa vie à saisir là devant lui, Antonelli, pour être déjà champion du monde.
Absolument. Bah, écoute, tu sais, le propre d'un grand champion, d'un grand pilote, Seb l'évoquait, tu lui as posé la question, est-ce que ce sera un futur crack ? C'est encore un peu tôt pour le dire. C'est sûr que, en tout cas, il apprend très très vite. Hein, il apprend de ses erreurs, et notamment, on l'évoquait aussi, de son passage à vide du milieu de saison l'année dernière, où il avait un peu craqué émotionnellement après Imola, vous en souvenez, quand il était près de chez lui, qu'il avait revu les gens qui étaient en classe avec lui et tout. Finalement, là, il a mesuré le chemin qu'il avait parcouru. Et puis il s'est repris un petit peu à Spa et encore mieux à Azerbaïdjan, et la fin de saison était superbe, effectivement. Alors écoute, moi je crois que oui, et je le souhaite ardemment pour les raisons que vous allez voir venir, c'est que si lui n'est pas en mesure de titiller Russell, voire de le bousculer parfois, bah, on risque de s'embêter, hein, je commence à le dire, parce qu'effectivement, après le feu d'artifice des Ferrari en début de course, et c'est formidable, et on va y revenir évidemment, mon Nico, je le sais, et la bataille, le duel, appelle ça comme tu veux, enfin bon, les changements de position entre les hommes de chez Ferrari... Je vais pas hypothéquer ce que je vais dire tout à l'heure. Et oui, c'est joli à voir, c'est sympa. Bon, même Charles qui est pas vraiment favorable à cette réglementation. Mais bon, je reviens à ton sujet qui est Antonelli. Ben écoute, il est rafraîchissant ce gamin. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est spontané. Encore une fois, son émotion il nous l'a transmise vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'était fantastique. C'est un rêve qui devient réalité. Il l'a dit. Et il a montré son ambition en disant, dans les propos que tu nous as fait écouter, en disant, mais ça ne s'arrête pas là, on a bien compris. Le stade suivant, maintenant qu'il a fait un hat-trick, hein, ce n'est pas donné à tout le monde non plus, le hat-trick, c'est-à-dire la pole, le meilleur tour en course et la victoire, bah, il en veut plus d'abord, il en veut d'autres, et puis surtout, ce qu'il veut, c'est le titre. Et pourquoi pas dès cette année ? Alors, moi, j'ai très bien connu, je l'évoque toujours, un certain Jacques Villeneuve, hein, qui en tant que rookie, lorsqu'il a débarqué en Formule 1 en 96, c'était à deux doigts, hein, qu'il soit champion du monde dès la première année. Donc, bah pourquoi pas ?
Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas, en tout cas, ce qu'il montre, c'est vraiment une capacité à s'adapter et à réagir dans la difficulté et à être vraiment performant. Andrea Kimi Antonelli, donc on le disait, 116e vainqueur en Formule 1. Les amis, bien évidemment, on va revenir aussi sur ce qui a animé notre Grand Prix, c'est cette lutte à deux, mais à trois, avec George Russell dedans, mais surtout cette bagarre entre les pilotes Ferrari, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, avec un Hamilton, on le disait, dans le sommaire, qui regoute au podium pour la première fois depuis 18 mois. Un Hamilton qui est assez transfiguré. Ça a été d'ailleurs la thématique de notre warm-up avant ce Grand Prix de Chine. Est-ce qu'on peut retrouver le Hamilton en mode prime ? Bah, il nous a encore donné des éléments de réponse là, lors de ce Grand Prix de Chine. Louis, ça a été vraiment l'animation de la course de dimanche. Cette bagarre entre les Ferrari. On s'est même dit à un moment, il faut peut-être que ça s'arrête parce qu'ils vont se foutre tous les deux dans le bac à gravier. Fred Vasseur a dit non, mais ça aurait été injuste et tout ça. Et pour le coup, ça nous a régalé. Hein.
Ouais, ouais. Bah, la déclat de Fred Vasseur, moi, m'a régalé parce que tu te dis, ah ouais, il est racing le mec, quoi. Parce qu'il est, il a quand même la plus grosse pression du monde avec la Scuderia Ferrari. Et bah, certains auraient pu aller à la facilité de geler les positions ou de demander à ce qu'on fasse attention. Et lui, il persiste et signe après le Grand Prix en disant non, non, c'est pas le sujet, il faut le faire, c'est la course. Je trouve ça vraiment cool, surtout dans l'époque là, actuelle où plein de gens se posent des questions sur justement l'évolution de ces réglementations qui peuvent dénaturer la course. Bah là, il y a eu de la course. Alors, Jean-Luc, je suis d'accord avec toi. Hein, on n'avait pas les on-board et les niveaux de batterie sur tous les virages. Et où était la course des changements de position selon les niveaux de batterie? Bon, bah voilà. Mais bon, on ne va pas taper dessus toute la saison parce qu'on est parti pour un moment. Donc,
bah oui, il va falloir faire avec.
Voilà, va falloir faire avec. Et bah, par rapport à Melbourne, où moi, vraiment, j'ai été catastrophé un peu de ce que je voyais. C'est pas ce que j'ai ressenti là. Et c'est vrai que cette bataille, cette passe d'armes, appelez-le comme vous voulez, a été très sympa à voir, très sympa à regarder. Ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est d'entendre les pilotes le dire, qu'ils ont passé un bon moment. Parce que bon,
c'est vrai que ça tranche complètement avec ce qu'on a entendu.
Bah ouais, exactement, exactement. Donc, je me dis bon. Peut-être qu'avec un peu d'habitude, quelques petites modifs, on va arriver à quelque chose qui va contenter tout le monde et faire kiffer tout le monde. C'est vrai que des voitures qui peuvent se suivre plusieurs tours comme ça, c'est aussi hyper intéressant. Donc à voir. Moi, je pense aussi que le meilleur move du week-end, il a été fait par le diffuseur Canal de mettre Loïc Duval, qui est pilote d'endurance et qui, en fait, c'est du vrai. Coup, a permis comme d'être consultant. Hyper pédagogue sur ce qui se passait. Sur ce qu'un pilote devait faire. Et alors, on s'éloigne de, on va dire, le racing pur, mais ça, c'est une autre forme. Et il nous a expliqué ça. Et du coup, bah, tu es plus dedans, tu comprends mieux ce qui se passe. Et tout de suite, bah, tu kiffes plus, tout simplement. Et si Hamilton est dans ce cas-là aussi, bah, c'est cool parce qu'il nous faisait de la peine. Donc, ça, on va profiter au moins de ça.
C'est clair, ouais, il va nous falloir un temps d'adaptation, on l'a dit dès la semaine dernière, nous les observateurs, il y aura toujours des sceptiques, moi pour l'instant je suis toujours pas très convaincu, mais c'est
ouais,
vrai que
moi non plus, mais
le fait d'avoir...
Ah ouais, mais je me suis régalé moi.
Bah tant mieux.
Mais je me suis régalé.
C'est vrai, tu t'es régalé.
Mais j'ai adoré, alors oui, je suis d'accord avec Jean-Luc quand il parle du côté artificiel, mais le DRS c'est quoi? Ça fait 10 ans qu'on se bouffe du DRS. Le DRS, c'est artificiel. Donc oui, moi, je suis le premier à signer, à demander à la Formule 1 de revenir à des F1 des années 2005, 2006, 2007. J'ai adoré. Mais là, moi, je me suis éclaté de voir les Ferrari se doubler, redépasser, se suivre. C'est ce que tu disais, Louis, de pouvoir enfin avoir des voitures qui se suivent. Les dernières années, là, ça y est, ils se dépassent entourés. Ça y est, j'ai plus de pneus. Et la course, elle était finito. On s'endormait devant notre canapé. Là, il se passait plein de choses. On voyait les Ferrari se dépasser, se redépasser. Russell qui était là, Alpine, Haas. Et moi, j'ai adoré. Je me suis éclaté. Et je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis un peu étrange? Est-ce que... Et en fait, j'ai posé une question à mes abonnés sur les réseaux sociaux. 30 000 ont répondu. Et je leur ai dit, est-ce que vous avez passé un bon moment? 90% ont dit, oui, j'ai passé un bon moment. 90%
ah ouais,
sur 30 000. Et je me suis
c'est
dit, bon, ok, plébiscite. Je te jure. Et je me suis dit, ok, oui, c'est pas parfait. Je pense, je suis totalement aligné avec Charles Leclerc. Les qualifications, nulles. Je suis d'accord avec ça. En revanche, la course, c'était super intéressant. Hamilton qui s'amuse. On voit les pilotes se dépasser, se redépasser, peut-être de manière artificielle, mais il y a de la bataille. Et on voyait plus ça. La dernière vraie bataille qu'on avait, c'était peut-être 2021, Verstappen-Hamilton. Mais est-ce qu'on se souvient, en 2022, en 2023, en 2024, une vraie, vraie belle bataille, ça durait 2 tours et c'était fini. Et c'est en ça où moi, je suis content. Merci Fred Vasseur, merci Ferrari, merci les pilotes Ferrari de vous battre. Et je me dis, eh bien écoutez, si c'est tout au long de la saison comme ça, ok, l'arrivée de 2030, la nouvelle réglementation, qui va changer évidemment, se fera un petit peu plus rapidement, enfin ça sera moins long pour nous. Donc moi j'ai adoré, ouais. et merci Tiamo, j'ai envie de dire Ferrari.
Bon, vous savez ce qu'on va faire, vous m'avez cassé le conducteur, mais vu qu'on va sur ce terrain-là, sur cette thématique-là, on va faire la chronique de Jean-Luc, c'est parti.
Il faut arrêter la Formule 1 parce que ça ne sert à rien.
Après, il s'est lancé dans une remontée vraiment à couteau ouvert.
Des moteurs de trottinette ou de tondeuse à gazon.
Mais écoute, s'il n'est pas gonflé comme une pendule. Et la queue du Mickey au rétroviseur aussi, t'es d'accord ?
C'est notre nouveauté 2026, une grosse prise de position de notre team principal, Jean-Luc Roy, qui va répondre à Seb Herson. Vas-y Jean-Luc, parce que toi, t'es toujours pas convaincu après ce Grand Prix de Chine.
Bah écoute, non, alors je vais replacer dans le contexte, hein, puisqu'on a la chance d'avoir un peu de temps dans le paddock, et je ne veux pas être incompris ou mal compris. Premièrement, je ne suis pas contre tous les changements, loin s'en faut, j'en ai connu tellement depuis que je suis passionné de F1 et de sport mécanique, ça remonte à quelques décennies, croyez-moi, donc il n'y a aucun problème, les changements, ça peut s'opérer, il y en a eu des bons, et c'est pour ça que c'est ambigu ce changement de réglementation, parce qu'il y a majoritairement 12 points, hein, techniques et sportifs, 12, c'est absolument énorme, et je commence par ceux qui sont positifs, pour pouvoir après mieux critiquer, on a réduit la largeur des monoplaces, très bien, effectivement, il y a des circuits où ça ne passait pas. Donc, quand il y a deux machines, par définition, qui sont côte à côte, si on enlève 10 cm de chaque côté, on garde de la place. Ensuite, on a réduit l'empattement, pas qu'un peu, 20 cm. C'est-à-dire que les monoplaces ont gagné de la vivacité, de la maniabilité, de la réactivité, ce qui va dans le sens de ce que demandaient les pilotes depuis des années. Ça, ce n'est pas nouveau. Et enfin, le poids, je le garde pour la bonne bouche, on n'a pas été assez loin. 32 kilos, c'est déjà pas mal. Ce n'est pas assez, à mon sens. Il faudrait encore en gagner une cinquantaine. Mais bon, on va dans le bon sens. Tout ça, ça contribue évidemment au spectacle que vous avez vécu et que tu as apprécié, Seb. Et que tes abonnés ont apprécié. Très bien. Moi aussi, je ne vais pas bouder mon plaisir, voir les deux hommes de chez Ferrari se passer, se repasser. Même si je sais que sur ces dépassements-là, je pense qu'une bonne moitié, moi aussi je ne peux pas le dire, mais une bonne moitié sont artificielles. C'est ça qui me gêne. C'est uniquement une question de disponibilité de puissance électrique. Ce n'est pas du pilotage, ce que j'appelle moi du pilotage pur. Alors là aussi, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, j'avais sorti un bouquin qui s'appelait « Il faut sauver le soldat F1 ». C'était en 2018. Je vais vous ressortir un certain nombre de phrases qui sont toujours, à mon avis, évidemment d'actualité. Il faut absolument redonner de l'importance aux pilotes, permettre à l'homme de reprendre la main sur la technique, rendre les règlements plus simples et plus compréhensibles. C'était en 2018. Faire en sorte que les batailles se gagnent sur la piste, par des trajectoires tendues, des freinages musclés, des accélérations démentielles, pas par de la gestion de carburant ou autre. Que les moteurs retrouvent le souffle et le caractère qu'on leur a connu, qu'ils poussent des rugissements capables de donner des frissons aux fans. D'ailleurs, vous le savez bien, en termes de jingle, partout, c'est les V10 qu'on entend. Les V10 qui prenaient 18 000 tours. C'est pas les tondeuses électriques d'aujourd'hui, on est bien d'accord. Ensuite, je vais dire, c'est un sport mécanique, mais c'est avant tout un sport qui doit absolument le rester. Et la F1 a droit à ce supplément d'âme. Bon, j'ai résumé. Alors, je vais être concret. Bien sûr que moi aussi, je suis ravi que globalement, le spectacle, et j'insiste sur le mot spectacle, et c'est là qu'on se trompe un petit peu sur la définition et la nature de la critique qui était mise notamment par Verstappen, qui reste la tête de file dans ce domaine-là. Les autres ont mis de l'eau dans leur vin, pourquoi ? Ceux qui gagnent sont contents, comme je le dis tout le temps pour schématiser, c'est tellement ridicule, mais c'est emblématique. Une voiture qui gagne, elle est belle. Même si c'est une horreur absolue, elle est magnifique. Donc un pilote qui gagne ou qui a une voiture performante, il est content du règlement, il ne veut pas que ça bouge. C'est tout à fait normal. Maintenant, ce qui ne va pas, et là on voit bien le gentil garçon qui était Lando Norris, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il dit « Oh moi ça va finalement ». Là, comme il met non seulement plus un pied devant l'autre, mais il ne peut même pas prendre le départ du Grand Prix. Ah, ça commence à couiner. Et je rappelle que les pilotes ont une nouvelle fois une contrainte absolue dans leur contrat, sous peine de sanctions terribles. On est sous régime de dictature à la FIA, il faut quand même le savoir, comme jamais il y en a eu. Donc on est menacé de tout, vous avez vu, des points de sanctions, des amendes de dizaines, voire bientôt de centaines de millions de dollars, etc. Allons-y, n'ayons pas peur. Donc, on a le droit juste de se taire. Certains osent un petit peu l'ouvrir, alors de moins en moins. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, et j'abonde dans votre sens, on s'habitue à tout. De toute manière, j'ai bien conscience qu'en défendant, comme Verstappen, une nouvelle fois, je n'invente rien, le fait d'amender ce règlement pour supprimer, et j'insiste là-dessus, la prépondérance de l'énergie électrique. Le problème, il vient de là. Et je te répondrai sur un point, Louis, ou Seb, je ne sais plus, le DRS, celui qui l'a évoqué, bien sûr que c'était artificiel, sauf que le DRS, d'abord, c'était clair, on comprenait très clairement qu'il y avait des points de détection sur le circuit, que quand le pilote qui rattrapait était à moins d'une seconde, il avait le droit d'utiliser le DRS, ce qui l'aidait à dépasser, naturellement. On est bien conscient que c'est artificiel. Mais s'il était plus rapide, il restait devant. Là, ce n'est pas le cas. Parce que si tu prends l'avantage dans une ligne droite parce que tu as économisé de l'énergie électrique ou plutôt tu l'as stocké dans tes batteries dans les virages précédents, bah, tu vas te faire repasser dans la ligne droite d'après. C'est pour ça qu'on a « je passe, je repasse et je repasse ». C'est artificiel. Voilà pourquoi ce règlement me gonfle carrément. Et moi, je suis désolé, je fais partie de ceux qui ont connu autre chose, c'est-à-dire, je l'ai dit, des vrais dépassements où les pilotes devaient s'engager. Et regardez, vous savez, les sports mécaniques, moi, j'en ai jamais assez. J'ai regardé l'épreuve d'Arlington, d'IndyCar, hier également. Vous ne l'avez pas vu. Ben, je peux vous dire que c'était magnifique. Qu'il y a eu, à 15 tours de l'arrivée, un dépassement exceptionnel sur Palou de Kirkwood. Et c'était du vrai sport automobile. Et tous les deux l'ont dit. Et ils ont pris leurs pieds. Alors certes, il n'y en a pas eu 15 des dépassements. Il y a eu celui-là. Bon, il y en a eu plein d'autres, hein, je vous rassure, dans le Grand Prix. Mais moi, je prends plus mon pied, je prends mon kiff dans une course d'IndyCar que dans un Grand Prix de F1 auquel je ne comprends rien et auquel je ne peux pas expliquer pourquoi machin est meilleur que truc.
Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un vrai problème, c'est que la FOM doit changer les informations. On ne comprend pas tout. L'overtake, un coup c'est allumé, un coup c'est éteint, on ne comprend pas vraiment. Je suis d'accord avec toi pour savoir la détection, le DRS était simple avant, tout était simple. Là, je suis d'accord sur ça, qu'on manque d'informations pour qu'on puisse tout bien comprendre sur le niveau de la batterie, c'est ce que disait Louis. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, je vous rejoins vous deux sur le fait que la FOM doit retravailler là-dessus. Donc la FOM, c'est elle qui diffuse les images pour qu'on puisse bien comprendre et qu'on puisse avoir le côté tactique, intelligence tactique des pilotes, parce que je suis d'accord que c'est ce qui m'a manqué, moi, à titre personnel, ce week-end.
Alors Seb, si tu me permets de rebondir, et Nico, excuse-moi, je vais être bref.
Vas-y.
J'ai eu la chance, moi, à l'époque de Canal, première mouture, hein, kiosque, pour ceux qui étaient assez âgés et qui l'ont regardé, à l'époque, on m'en parle encore. J'étais avec Patrick Tambay, bien sûr, et on a initié toute cette couverture. Pourquoi on l'a initié ? Parce que Bernie Ecclestone, à l'époque, avait décidé de mettre en place des moyens de production indépendants des pays. C'est-à-dire, nous avions ce fameux Bakersville, 200 personnes, 200 tonnes, c'était facile, et on se déplaçait de tracé en tracé. Eh bien, après chaque Grand Prix, on avait des briefings, etc., avec les responsables pour leur donner notre point de vue, leur dire si on peut déplacer telle caméra de 5 mètres sur la gauche, on aura un angle, si on peut faire ceci, si on peut faire cela. On travaillait la main dans la main avec la FOM de l'époque, avec les équipes de Bernie, et c'était un vrai bonheur. Donc, le problème qui manque aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils décident dans leur coin, c'est le cas de le dire, et qu'ils n'écoutent personne. Et ça, c'est gravissime.
Ouais. Moi j'ai l'impression, et après on repassera sur ce duel sur la piste entre les Ferrari, mais je sais pas ce que vous en pensez, Louis. En fait, j'ai l'impression que cette nouvelle réglementation, et c'est pas pour être trop critique, mais elle est faite pour ramener une fanbase un petit peu plus large, c'est-à-dire avec plus de, comme les appelle Jean-Luc, des dépassements un peu artificiels, mais où tu as des
changements de position
sur la piste.
Changement de position.
C'est spectaculaire, ouais, voilà. Par contre, pour les connaisseurs purs et durs, tu vois, t'accroches moins à ce spectacle-là. C'est fait pour un peu attirer un maximum de gens sur la Formule 1, mais ça délaisse, ça coupe un petit peu le public de passionnés de son sport.
Ouais, bon, on voit, enfin, comment dire, on va pas non plus s'étonner de la volonté de Liberty Media d'aller plus vers le spectacle que vers le sport. On s'y attendait quand ils ont repris les parts de la F1 et on s'attendait à que ça évolue vers là, mais c'est clairement ça. C'est-à-dire après, voilà, tu pourras y trouver de la course, tu pourras y trouver de l'intérêt. Comme l'a dit Seb, si on comprend tout déjà, bah, on arrivera plus facilement à s'y faire. Mais il y aura quand même toujours, et moi c'est vrai qu'entre vos deux discours, c'est vrai que j'ai un côté plus comme Jean-Luc où j'ai encore du mal à m'y faire parce que ce que j'avais dit au tout début de la saison, moi quand je vais au karting, c'est pas pour relâcher de l'énergie en ligne droite.
Voilà, tout dit.
L'exemple il est un peu éclaté parce que bon, au karting t'as pas un moteur comme
mais
ça.
Mais tu prends ton pied.
Mais voilà, tu bourres et tu essayes d'arriver plus vite que les autres quoi. Enfin, je suis caricatural volontairement, mais je pense que c'est ce qui manque un peu et enfin. pour des courses de stratégie et tout ça. Il y a le WEC, il y a l'endurance et c'est super pour, sur ces aspects-là. Mais la F1 incarne quand même normalement la performance pure à tous les niveaux. Et là, le compte n'y est pas pour moi. Et comme tu dis, Nico, moi, alors certains sont peut-être un peu violents en disant ouais, c'est la F1 Disney, c'est pour tous les jeunes
Les fans de Netflix.
Qu'on découvre Mario ça avec Netflix ou quoi. Mais bon, je pense qu'il y a quand même toujours il y a un peu de vrai là-dedans. Il ne faut pas non plus être réfractaire. On va laisser la chance au produit, mais pour l'instant, personnellement, je m'ennuie un peu, quoi.
Ouais, écoute, on va attendre. On va attendre encore plusieurs courses avant de se faire un avis tranché sur cette réglementation. On va voir aussi les directives prises par la FIA, s'il y en a.
Il n'y en aurait pas, hein. Apparemment, ils auraient décalé.
Ouais,
hein.
Oui, bien sûr.
Ils auraient décalé après le Japon.
Ouais. Parce que ceux qui gagnent gèlent tout, bien sûr.
Ouais.
Ces fameuses
séances de qualification, on en attend plus. Et même les pilotes, pour le coup, là, après ce Grand Prix de Chine, restent quand même très dubitatifs sur le format des qualifs ou sur la possibilité d'exploiter le maximum de leur machine en qualif. Donc peut-être qu'il y aura des ajustements pour ces séances de qualification. Reprenons là où on s'était arrêté. À Lewis Hamilton, de retour peut-être à son meilleur niveau. On a vu un grand Lewis Hamilton ce week-end. On va l'écouter d'ailleurs, tiens, au micro de Canal. Et c'est vrai que même au micro, on arrive désormais à voir le sourire de Lewis. Peut-être qu'on arrive à apercevoir ses dents maintenant. Et on ne les avait pas vues beaucoup la saison dernière en 2025. Lewis Hamilton.
Ah, it was super fun. It was incredible.
C'était super fun, c'était génial. Great franchement, c'était super serré. Belle bataille. J'aurais aimé que cela soit avec les Mercedes, cette bataille, mais on n'a pas pu les tenir. Il va falloir progresser pour pouvoir se battre avec eux, surtout en ligne droite. Mais on a pris un max de plaisir avec Charles et c'était aussi génial de le voir se battre. Je suis reconnaissant que ça se passe ainsi. On a pris de gros points pour l'équipe. Entre ici et prendre mon podium, en plus c'est le jour de la fête des mères. Bon, c'est vraiment un rêve. J'y ai rêvé toute ma vie de prendre un podium avec Ferrari. Et c'est un premier pas. Il a pris plus de temps à venir que ce que j'espérais, mais cette première est spéciale pour moi. Voilà Lewis Hamilton. Bon, son rêve de, il a rêvé toute sa vie d'un podium avec Ferrari à chaque fois, hein. Pour l'interrogation quand même, hein. Parce qu'on a quand même l'impression.
Oui. Hamilton, il a toujours rêvé de ce qui se passe quand il a un micro devant son nez. Toujours.
C'est marrant, hein.
Donc là, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Ah là là, j'ai jamais vu autant de monde à Shanghai.
Les meilleurs fans,
il n'y en a jamais eu autant.
Mais il est fort là-dedans.
Franchement,
il serait pas communicant, lui.
Il y en a qu'un dans le monde qui est aussi grossier. Il est orange et aux États-Unis, ils parlent pareil les deux.
Oui. Ouais, c'est
tout
pas
est faux. Toujours merveilleux, tout est toujours formidable. Mais bon, c'est marrant.
Les amis, est-ce qu'on n'est pas en train quand même de retrouver le grand Lewis? C'est là aussi tôt pour le dire, mais on sentait quand même après Melbourne quelques petites prémices, notamment dans l'attitude, dans aussi l'assurance qu'il avait en piste, la confiance dans cette monoplace. Et là, Jean-Luc, c'est vrai que il est rapide, il va vite. Et d'ailleurs, Charles Leclerc l'a dit. Tiens, on va l'écouter, Charles Leclerc, Jean-Luc, juste avant de te redonner la parole, mais il a dit tout simplement qu'Hamilton était plus rapide que Lewis ce week-end.
Aujourd'hui en course, Lewis a tout simplement été plus rapide du début jusqu'à la fin. Enfin, j'ai eu quelques tours où j'étais un petit peu mieux, mais très honnêtement, Lewis était au-dessus ce week-end. Donc bravo à lui, je suis content pour lui, pour son podium. Bien sûr, déçu pour moi pour être en dehors du podium, mais bon, c'est comme ça. Je travaillerai pour être meilleur la prochaine fois sur ce circuit.
Voilà, 203e podium pour Lewis Hamilton en carrière, Jean-Luc. Ça fait quand même, malgré tout... du bien, j'imagine, à la Scuderia de voir que Hamilton, qui a été payé très, très, très cher, est enfin au rendez-vous.
Ah bah écoute, voilà, il est en train de rembourser en partie l'investissement de Ferrari. Non, plus sérieusement, écoute, c'est super. On avait vu, tu l'as rappelé, les prémices, effectivement, en Australie, où il se sentait un peu mieux. Bah là, c'est clair, hein, en qualif, alors on sait pourquoi, puisque Charles a dit « je n'ai pas pu sortir mon tour magique ». Enfin, c'est pas lui qui le dit comme ça, il n'ose pas. Mais le tour de d'habitude où je donne tout, on ne peut plus avec ces voitures-là. Mais bon, il y a une différence de 13 millièmes en faveur d'Hamilton, hein, en qualif. Donc, tant mieux, bravo. Formidable. Et puis, je rappelle qu'en course, effectivement, après un bras de fer qui a duré pas mal de tours et qui réjouit tout le monde, même si au final, Charles est un poil plus rapide dans le 56e tour. C'est mon fameux tour en course, hein, meilleur tour en course. Il est un peu plus rapide de 81 millième exactement que Lewis Hamilton au 55e. Mais la différence, alors que, évidemment, Charles a levé sur la fin, les de plus de 3 secondes et demie, bah écoute, ça fait extrêmement plaisir, bien sûr, de le revoir aux affaires. C'est réjouissant, c'est émoustillant. Et si on peut avoir des passes d'armes comme ça, grâce à Fred Vasseur, qui est un vrai sportif, hein, comme Louis le rappelait tout à l'heure, et un type, moi, que je connais bien et que personnellement j'adore, on a toujours beaucoup de mal à juger les gens qu'on aime, mais c'est un vrai sportif, lui. Donc, il laisse ses pilotes se battre, même si ça lui fait quelques sueurs froides. Et c'est réjouissant pour tout le monde. Et puis, encore une fois, revoir la Scuderia aux affaires après la Bérésina, c'est le mot qu'il faut employer de l'an dernier, bah, ça ne peut que réjouir. Même si on sait que le feu d'artifice en début de course ne va durer que le temps que, j'allais dire, la puissance électrique se mette en route. Mais c'est toujours ça de prix. Voilà.
Ouais. Louis, le retour de Hamilton Prime, on y croit ou on s'emballe pas ?
Oh non, on s'emballe pas. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par Prime ? Lui-même, que, indépendamment de sa voiture, quoi, ouais. Qu'il soit au top, qu'il l'emmène à 100%.
Qu'il arrive à maximiser, maximiser le potentiel de son matos, quoi.
En tout cas, là, il a tout mis pour et. Pour le moment, c'est en train de se passer du mieux ou presque possible. Attention quand même, l'année dernière en Chine, il gagne la sprint dans mes souvenirs. Et derrière, il fait une saison cataclysmique. Donc, pas s'emballer non plus. On va voir aussi, on n'a pas abordé, mais il va falloir voir comment les écuries et les pilotes gèrent ces 5 semaines sans F1, du coup, les deux Grands Prix qui vont sauter.
C'est tout le mois d'avril.
Je pense que, à part hors Covid, c'est inédit, ça, ce trou comme ça à cette époque. Donc, l'expérience va peut-être justement lui permettre de mieux le gérer que d'autres. Mais la saison est très, très, très longue. Pour l'instant, la voiture va bien. Imaginons qu'elle aille un peu moins bien. Est-ce que les démons de l'année dernière ne reviendraient pas très vite ? Ça mérite de consolider un peu ce comeback avant de dire il va nous faire une saison type 2021, 2019, 2018, enfin les grandes saisons de Lewis, quoi.
Et tiens, un mot, si tu permets, Nico, juste avant que tu donnes la parole à Seb, je présume. Malheureusement, c'est très triste que l'on n'ait pas trouvé de remplacement, de substitution à ces deux Grands Prix dont on se doutait bien qu'ils seraient annulés. Mais je peux déjà vous donner la raison. Portimao n'a pas mis assez d'argent sur la table et Imola non plus. C'est aussi simple que ça. Il y avait deux circuits qui étaient prêts à fonctionner. On n'aurait pas ce trou de 5 semaines. Là aussi, on sacrifie le sport au pognon. Voilà, je l'ai dit.
Mais alors, du coup, tu dis que c'est la faute des circuits de ne pas avoir mis le pognon ou tu dis que c'est la faute de Liberty Media de ne pas avoir baissé l'enveloppe ?
Mais Louis, ils ne peuvent pas le mettre. Pendant le Covid, on était bien contents de retrouver précisément les Portugais, Portimao et Imola. On est d'accord. Et ils n'ont pas mis 50 millions sur la table. Ils ne peuvent pas le mettre. De toute façon, aujourd'hui, la Formule 1 est tellement structurée. Maintenant, le ticket d'entrée est à 50. Avant, c'était des sommes complètement démoniaques. Le ticket d'entrée, même quand il y avait le Grand Prix de France, c'était 15 à 20 millions. Tu vois, on était trois fois moins cher. Maintenant, si en préambule, tu ne peux pas poser ça... Donc, moi, je te garantis que les tractations avec notre excellent ami Dominique Ali, ça a été ça. Tu peux mettre 50 millions, t'as le Grand Prix. Tu peux pas les mettre, tu l'as pas.
Ouais, voilà,
et on se fout du sport. Et on se fout du sport.
On est d'accord. Voilà. Tu rejettes la faute sur Liberty Media, pas sur...
Évidemment.
Et d'ailleurs, regardez la communication. La F1 a dit « Les Grands Prix n'auront pas lieu en avril. » Sous-entendu, si jamais ils peuvent le mettre, ils le mettront. Parce qu'il y a tellement d'enjeux financiers. Les Grands Prix qui payent le plus. Donc, si la Formule 1 peut les recaser, ils vont les recaser. J'y crois absolument
pas. Recaser,
moi, j'y crois pas. Mais pourquoi ils n'ont pas dit annuler ? Pourquoi ils n'ont pas dit annuler ? Ils ont dit n'auront pas lieu en avril.
Ils font comme au Covid, ils se laissent le temps de...
Exactement, j'y crois pas. Mais ça, c'est partout.
C'est la surenchère.
Peut-être un quadruple header. Un quintuple header.
Poser 80 millions ou 100 millions sur la table.
Ouais, non. On va nous retrouver à ramasser à la petite cuillère au bout du 25e warm-up en 2 semaines.
C'est clair. Les amis, tiens, parlons quand même des cadors de 2025, là, Seb, qui sont nulle part, et c'est assez dramatique. Lando Norris, le champion du monde sortant, Oscar Piastri qui n'a pas pris le départ des deux premières courses de la saison.
Il n'a pas fait un tour
quand même.
Ah ouais.
Il n'a pas fait un tour, Oscar Piastri. Max Verstappen qui est complètement hors rythme. C'est quand même les trois mecs qui ont rythmé, qui ont animé la saison 2025, qui était une saison pleine de suspense, on le rappelle quand même, où on s'est régalé. Et ces mecs-là, ils n'existent plus. L'image que ça donne à la Formule 1, c'est, enfin, je sais pas, pour moi, je trouve ça dramatique. C'est quand même des superstars, les mecs. Hein.
Ouais, après, tu vois, McLaren, alors j'avoue, c'est la honte. Franchement, les gars, ils ont gagné deux titres constructeurs à la suite. Et là, tu as les deux voitures qui ne prennent même pas le départ. Donc, évidemment... que c'est un peu
alors
là
eux ils chargent le motoriste hein. Problème électrique apparemment du propulseur donc eux ils chargent
absolument. Ça commence à tirailler là,
exactement alors qu'on est au deuxième Grand Prix seulement et il y a une image moi qui m'a fait mal au cœur quand il recule la voiture de Piastri que Piastri est dans la voiture et tu vois son casque est baissé il peut pas descendre la tête plus bas tellement il est dégoûté et il est triste et ça m'a fait mal au cœur. Après ça dépend si tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. À moitié vide tu te dis ok, bon, bah, d'un côté, on a les trois qui étaient là, les deux dernières saisons qui ne sont plus là, ça fait un peu de renouveau. À moitié plein, ça dépend dans quel camp on se met, on se dit ok, ça m'énerve parce que ça peut être sympa ou pas sympa, mais ils ne sont pas là. Donc, encore une fois, ça dépend pour qui tu soutiens. Mais c'est vrai que moi, j'ai hâte de voir un Verstappen remonter, j'ai hâte de voir des McLaren être là pour un peu titiller, parce que regardez, les Mercedes, quand... elles sont en bataille, elles s'envolent pas. Et je me dis, si on avait un Verstappen, une McLaren, les deux McLaren, qui étaient là pour embêter les Mercedes,
et voilà.
Ça serait intéressant. Les Mercedes, quand
mais
elles
Verstappen,
ont...
on l'a tous mis sur notre podium. Là,
vous,
peu,
oui.
Là,
moi,
lors
non.
Du dernier warm-up.
Moi, j'y crois pas du tout pour le moment. J'y crois pas du tout pour le moment.
Ça va, il nous met des coups de rap, celui-là. Là. Oh.
Non, moi, j'avais...
Quel boulard.
Non, dans le sens où Verstappen, pour le moment, tu sens qu'il ne s'éclate pas plus que ça. Qu'il ne s'amuse pas plus que ça, que la voiture n'est pas folle, et même que Hadjar est en train de rivaliser avec lui. Et je trouve que ça, c'est super intéressant. On en parlera sûrement plus tard. Mais voilà, c'est sûr que ça fait bizarre. Une F1 sans Verstappen, sans Norris, sans Piastri. Moi, j'ai hâte qu'ils remontent, les copains, pour qu'on s'affronte et qu'on puisse les voir. Mais ce n'est pas des images qu'on a envie de voir. Les deux McLaren qui ne sont pas au départ, c'est sûr que ça fait mal au cœur. Et puis de voir un Verstappen qui se loupe au départ en sprint, qui se loupe au départ au Grand Prix, tu dis... c'est bizarre. Mais de les voir un peu galérer...
Et en Australie, trois départs ratés.
Mais de les voir un peu galérer, tu dis, bon, ok, ils sont humains, ça nous rassure un petit peu quand même.
En ayant une petite sœur qui, elle, ne rate pas ses départs.
Ah, c'est clair.
Ça, c'est dingue.
Exactement.
Dans ce sens-là, c'est quand même assez rare.
Même Hadjar, hein, il fait des bons départs. Hein.
Oui, c'est vrai, même Hadjar.
Ouais,
oui, donc le problème, c'est Verstappen. J'ai toujours dit que c'était une pompe.
Totalement surcoté ce mec. Jean-Luc, dans oui. ton expérience de commentateur de la Formule 1, t'as souvenir d'avoir quand même trois mecs aussi dominants sur une saison qui sont totalement à la rue, deux grands prix après la saison de la réussite, quoi, de la réussite folle. Moi, je trouve ça dingue en fait de les voir
moi,
aussi
idée,
loin
moi.
Les mecs.
2009. Je sais pas ce que Jean-Luc, je sais pas ce que 2009, changement réglementaire. McLaren et Ferrari qui sont loin, ils arrivent à Spa, Hamilton gagne en 2009. La première saison, ils sont zéro. Je sais pas ce que t'en penses, Jean-Luc, si t'as.
Oui, mais non, mais la différence énorme. Et là, mon Nico, tu m'as tendu la plus belle perche, tu vois, par rapport à mon argumentation de tout à l'heure, c'est que le sort des pilotes leur échappe totalement. Et le problème, il est là. C'est-à-dire que effectivement, tu as raison de le rappeler, Seb, bien sûr, on ne va pas tous les reprendre. La fin de l'ère des turbos, le début des V10, tout ça. Il y en a eu des époques en Formule 1, bien sûr qu'il y en a eu, et c'est normal, il y a une redistribution des cartes. Le problème cette année, c'est que là, vous venez de citer trois pilotes extraordinairement performants. Si vous me permettez, je rajouterai quand même un double champion du monde, hein, Fernando Alonso, si ça ne vous ennuie pas.
Ouais.
Donc, ils sont au moins quatre. Il y a quatre de ces pilotes-là qui ne prennent même pas le départ. C'est-à-dire 20% de la grille de départ qui n'est pas présente. C'est dramatique. Là aussi, il ne faut pas qu'il y en ait plus, hein, parce que ça va devenir ridicule quand même. Parce que là aussi, moi, je vais me plonger dans les contrats de la FOM avec les diffuseurs. Il faut qu'il y ait 20 monoplaces sur la grille, on est d'accord ? S'il y en a 18 ou 16 ou 15, et puis je vous avais dit aussi, si on termine à 15, c'est formidable. Un Grand Prix, il termine à 16, le deuxième à 15, le troisième, il y en aura combien ? 12 ? Non, mais on a l'impression qu'il y a des gremlins, c'est le mot qui convient, qui sont à bord de ces monoplaces, qui échappent non seulement aux pilotes, ce qui est catastrophique, parce que, bon, pour être sérieux avec le cas Verstappen, Verstappen, c'est pas devenu un type incapable de prendre des départs. C'est que simplement, sa monoplace, comme il le dit, il fait tout bien. Toute la procédure, bah, il est quand même capable de l'appliquer. Si Hadjar l'applique, à mon avis, Verstappen, il peut le faire. Hein. Sauf qu'au moment où il envoie la purée, où il envoie la soudure, il n'y a rien qui se passe. Il est scotché. Et je le répète, ça peut être une source de drame. Parce que si on a une monoplace sur les deux ou trois premières lignes qui reste scotchée et que les 18 autres derrière déboulent à 250 km/h, le dernier qui va l'éviter, ça ne va pas être bon pour celui qui suit. Hein. Je l'ai déjà dit et je le dirai pratiquement lors de chaque paddock. Donc voilà. Donc si tu veux, ce qui me gêne plus que ça, c'est que ça échappe totalement au contrôle des pilotes. C'est-à-dire que ce sont des forces extérieures qui font que bah, c'est comme ça. Bon, alors, c'est triste qu'il y ait des changements suite à une réglementation et certains qu'il est mieux négocié, je comprends très bien, encore que vous avez vu le tiraillement qu'il y a du côté de Williams et de McLaren, qui ne comprend pas pourquoi les moteurs Mercedes, bah, c'est marrant, ils marchent dans les Mercedes et puis ils commencent à marcher dans les Alpines. Oh bah tiens, Toto Wolff veut racheter Alpine, c'est rigolo ça, non?
Ah, j'ai pas pensé.
Oh, mais tu vois des cons. Tu vois des complots partout, mon Jean-Luc. C'est
ah,
fou,
bah oui.
Ça.
T'es vraiment le meilleur. Ah, j'y avais bah pas oui. pensé alors que c'est évident.
Mais bah, bien sûr tiens. Que c'est évident. Tiens, bah, allons-y là sur le réveil d'Alpine, quand même, avec un Pierre Gasly qui est quand même à chaque fois phénoménal dès qu'il a une voiture qui lui permet de passer le museau un peu pas loin du top 5 ou dans les points. Il est là, Gasly, on l'écoute sur sa 6ème place et son très bon week-end en Chine.
J'ai une partie de moi qui est très content pour tous ces points. Je pense qu'on a vraiment fait un week-end solide de la qualif en sprint, de la qualif hier en 7ème place. Je prends un très bon départ, on arrive à ouvrir le gap en 5ème place. Au début, on était vraiment à l'aise. Safety car, ça nous a foutu un peu ça nous a mis un peu plus dans la difficulté. Après, non, honnêtement, en rythme de course, on était vraiment très bien. Et après, sur la fin de course, j'étais à 3000%, j'ai réussi à revenir. Il n'a pas manqué grand-chose pour aller chercher Biermann. Donc, c'est sûr que j'aurais préféré avoir cette 5ème place et je pense qu'on l'avait. Il y a encore 2-3 petits trucs à régler. Après le safety car, j'avais pas d'énergie pour le restart et du coup il y a Biermann qui me dépasse en mettant le clignotant dès qu'on passe la ligne. Donc c'était un peu dommage de ne pas pouvoir se bagarrer vraiment. Mais ça reste une 6ème place et je pense que ça reste c'est un bon début.
Voilà Gasly au micro de Canal+. Il est de retour les amis. Alpine est de retour, Louis.
Ouais,
ah, tu
bah,
vois, je pensais pas te dire ça un jour. Tu vois,
champion du monde contender. Non, mais faut pas s'emballer non plus. Ils sont quand même encore loin de la voiture de leur motoriste et ils sont derrière. Faut se rappeler aussi qu'on a deux McLaren qui sont pas là et qui devraient très rapidement, si la logique est tenue, repasser devant, puisqu'ils ont le même moteur et que bon, ces derniers temps sur la partie châssis, ils ont montré plus. Même si bon, on peut pas vraiment juger, on l'a vu très peu cette McLaren. Mais bon, c'est quand même super, c'est très bien. Il faut se rappeler l'année dernière quand même qu'ils ont terminé vraiment dans les abysses avec une saison interminable très très longue, très dure mentalement. Donc c'est très bien. Je suis content de l'avoir entendu nous expliquer un peu ce qui s'est passé lors de la safety car parce que c'est vrai que bah en fait. Si on voit, il est un peu le premier à qui elle fait coûter des places, quoi. Parce que devant, ils arrivent à peu près à ressortir.
Ouais, il perd 4 ou 5 places. Ouais.
Ouais, il repère à ressortir là où ils sont. Et lui, entre ceux qui décident de pas rentrer plus Biermann, qui, comme il vient de l'expliquer, il se retrouve à un moment beaucoup trop loin par rapport à ça. Et là, il perd beaucoup de temps parce que les trains se refont, parce que toi, tu dois redépasser tout ça. Et puis après, c'est fini. Et on voit qu'à la fin, quand même, il n'est pas si loin du compte. Donc, ça veut dire que l'Alpine a été peut-être même au-dessus de la Haas. C'est ce qu'il a l'air de sous-entendre. Donc, c'est quand même positif par rapport à l'an dernier. Après, de dire elle est de retour, ouais, je ne sais pas si j'étais... Mais moi, je m'attendais avec le meilleur moteur à pourquoi pas talonner encore plus le motoriste, quoi.
Ouais. Ouais, elle est chatouillée vraiment le...
Ouais, bah ouais. Avec un seul pilote, hein, ils auront ce problème. Colapinto fait un week-end correct et donc peut-être qu'il est en train de avec un peu plus de sérénité.
Sans la safety car, Colapinto aurait marqué des gros points comme Ocon, tu vois. Et sur le premier relais, Gasly, il suit le duo Ferrari-Russell. Il est pas loin, il est pas proche, mais tu vois, il est dans le rythme.
Il est quoi, 1,5 seconde, 2 secondes pendant un bon moment. Donc c'est quand même, c'est cool, mais... Ouais, non, pourquoi pas. Je pense que ça sera une voiture qui sera un peu, toujours un peu fluctuante selon les grands prix. Quoi. Il y a des grands prix.
Qui fera des coups.
Ouais, voilà. Il y a des grands prix où on les verra pas trop. Et leur moyenne, elle sera je pense, elle sera en fin de points, quoi. Elle sera pas beaucoup mieux. Quoi.
Ils sont à 2 points de Red Bull. J'aurais pas cru dire ça.
Ah oui, pour le moment. Oui.
Pour l'instant, ils sont à 2 points de Red Bull. Jean-Luc, autre pilote à avoir marqué des points, c'est Isaac Hadjar, ses premiers points avec Red Bull. Il n'avait pas pu terminer la course en Australie après un problème de fiabilité. Il a fait un week-end, quand on voit les difficultés de Verstappen, une nouvelle fois solide, Isaac Hadjar. Où là, pour le coup, il a pu un peu s'étalonner par rapport à ce que fait Verstappen.
Ah ben il fait du très beau boulot tout le week-end avec une monoplace très difficile à exploiter, il l'a dit, et Verstappen encore plus. Il est très très proche, hein. il est bien dans l'écart de temps. Personnellement, je m'étais avancé en disant s'il est à moins de 3-4 dixièmes, c'est formidable. Ben là, il est à moins, il est tout proche. Hein. Donc c'est fantastique. Il fait du bon boulot. Bon, la seule petite ombre au tableau, c'est quand il y a effectivement l'accrochage avec Antonelli qui vient s'excuser, il l'envoie balader pour rester poli. C'est pas très élégant. Surtout qu'après, il en fait une en course, lui, où il manque de ramasser Berman. Berman est beaucoup plus, j'allais dire, gentleman en disant « Bah oui, j'ai dû sortir, j'ai perdu beaucoup de temps, je suis revenu. » Mais bon, il ne va pas l'en vouloir toute sa vie. Bon, c'est des détails. Je sais bien que ce sont des gamins de 20 ou 21 ans. Ils vont se calmer avec le temps. Mais globalement, c'est une très belle prestation. Ce sont ses premiers points pour Red Bull. Et bah, il est là où malheureusement Verstappen donc, a été privé. Alors, il faut replacer dans le contexte également. Hein. Il termine 8e, mais il termine 8e à pratiquement un tour. Ça, c'est la monoplace qui l'en empêche. Et puis, on l'a dit et redit, il n'y a pas les deux McLaren et il n'y a pas Verstappen. Et tout ça, normalement, c'est bien devant. Sûr. Ça veut dire qu'il est normalement en dehors des points. Mais bon, globalement, sa prestation personnelle à lui, avec la monoplace dont il dispose, elle est très bonne. Voilà.
Ouais, il confirme Isaac Hadjar, hein, les amis, son potentiel. Et le choix de Red Bull de l'avoir installé à ce deuxième paquet. Rapidement, on ne va pas l'écouter, Isaac Hadjar, parce qu'on n'a plus trop le temps. Je voulais qu'on parle d'Esteban Ocon, Seb, qui est une nouvelle fois en difficulté ce week-end. Il y avait ce choix audacieux de partir en pneu dur où on a vu Ocon dans les premières positions de ce Grand Prix se bagarrer avec Colapinto et se dire « Ah, ça y est, ça va peut-être tourner ». Et il y a cet accrochage entre les deux qui coûte énormément à Colapinto. Il est dans le dur, Esteban. On le disait sous pression, ça se ressent. Surtout qu'il a un coéquipier qui est 5e du championnat, Oliver Berman, qui a déjà marqué 17 points. C'est colossal.
Ouais, c'est vrai qu'il est à double comparaison. Berman qui est là, qui marque des points, qui est très intéressant. Souvenez-vous, son directeur pendant la trêve hivernale disait on attend plus d'Esteban. Là, clairement, il n'a pas de chance. C'est qu'il se bat avec Colapinto pour des gros points. La voiture de sécurité arrive au pire moment. Ça, c'est clair et net. Et après, mentalement, il craque et il s'emballe et il touche Colapinto. Donc là, c'est sûr qu'il va falloir faire un petit reset. Alors, on est déjà qu'à la deuxième course, et faire un reset, c'est tôt, mais je pense vraiment que c'est important, parce que là, Esteban, je crains qu'il joue sa carrière dans les prochaines courses.
Il joue sa carrière, on le disait.
On en parlait en fin de saison déjà, on sentait les discussions, que ça soit même autour de son team principal à l'époque, et bref, tu sens qu'il n'a pas le vent en poupe, tu sens qu'il y a, alors il est plus rookie, mais un très jeune pilote quand on est qu'à sa deuxième saison, ça fait pas 3 courses qu'il le bat, hein, ça fait 8 mois. Donc ça commence à être quelque chose, on va dire, qui correspond peut-être malheureusement au niveau de chacun. Et quand tu es deuxième pilote d'une petite écurie, t'es sur les sièges les plus éjectables qui existent, donc t'es très proche de la sortie. J'espère qu'il va trouver les solutions et montrer qu'il est rapide, parce qu'on sait qu'il l'est. Mais malheureusement, ouais, cette saison, elle va être plus que déterminante. Elle est cruciale, parce que je pense que ça peut être la dernière si ça ne se passe pas bien.
Il s'est rapproché de Berman en qualif. Lui, il est éliminé en Q2 versus Q3 pour Berman. Mais le delta, il n'est pas énorme. Il s'est rapproché, c'est sûr et certain. En qualif, la voiture de sécurité ne va pas dans son sens. Donc encore une fois, il est en train de mettre toutes les choses comme il le faut. Après, il faut cette petite chance qu'il, pour le moment, n'a pas. Si lui, il a cette petite chance et qu'il se donne à 200% comme il le fait, ça va marcher. Juste, là, j'aimerais pas être à sa place. Mentalement, faut être costaud. Et après, on a envie de croire en lui. Là, dans 2 semaines, si il marque pas de points ou s'il se fait encore bien devancer par Berman, la pause de un mois, là, elle va être très difficile. Il faudra beaucoup travailler mentalement parce qu'on le voit, il y arrive, il n'est pas très loin. Après, il faut tout mettre dans le bon ordre parce qu'il n'a pas beaucoup de cartouches. Parce que cet été, on sait que le mercato, il va ouvrir très vite. L'année prochaine, les trois quarts des pilotes n'ont pas de contrat. On va avoir un mercato de folie. Il ne faut pas tarder, Esteban.
Juste un mot, mon Nico. Tout à fait d'accord, avec vous, hein, avec mes deux camarades. Et ça me fait de la peine pour Esteban, qui est un excellent pilote et qui, a fauté en course, alors qu'on sait qu'il est un peu moins rapide que Berman, qui, je le répète, Berman, c'est de la graine de champion du monde, hein, je peux vous le
c'est
dire.
Clair.
Déjà de la graine de vainqueur de Grand Prix. Ça, vous allez voir s'il passe chez Ferrari d'ici une ou deux saisons. Il va nous faire une Antonelli, dans le bon sens du terme. Il n'a que 20 ans. Hein. Mais le problème d'Esteban, c'est qu'en course, normalement, il compense, il rattrape, et il doit être au moins du niveau de Berman. Or, ça n'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Je suis bien d'accord avec vous.
Et c'est une faute que son move qu'il fait, c'est la faute d'un gars qui ne va pas bien. D'un gars qui est peut-être un peu, qui vit mal un peu la pression et la situation.
Complètement.
Qui est dans le jus. Ouais. Qui est dans le jus, là, Esteban Ocon. On va voir ce que ça donne au Japon. Je vous rappelle que le prochain Grand Prix, c'est dans 15 jours désormais le week-end du 27 mars, il me semble. Donc, on aura un petit warm-up le jeudi qui précède cette date. N'hésitez pas à commenter, à réagir avec nous sur toutes les prises de position de Jean-Luc, de Seb, de Louis via la page RMC Formule 1. On se retrouve, du coup, dans une grosse semaine pour le warm-up du Grand Prix du Japon à Suzuka. Bye bye.
Ciao. Salut,
ciao. Le paddock RMC.